Chapitre 7. La reine, le conseiller et les trois délégués. Elle se trouve où, la salle du conseil ? Demanda Zizo en regardant au bout du couloir de la grande galerie, Ogénor s'éloigner dans son fauteuil roulant. Alix, debout derrière lui, le poussait. « Dans les appartements de la reine ?» répondit Sabi. « Enfin, dans la grande pièce tout au fond. On appelle ça les appartements de Napoléon. » « On peut suivre Ogénor et Alix ?» Sabi prit un air offusqué. « Tu rigoles ou quoi, petit sauvage ? Jusqu'à la salle du conseil ? Et puis Ogénor, avec son fauteuil, il est obligé de monter par l'ascenseur.
Et viens pas me demander ce que c'est un ascenseur, j'en ai marre de tout expliquer. »
Elle prit quelques secondes pour sucer ses trois lollipops. Elle éclata de rire en regardant l'air gêné de Zizo, puis démarra en criant « Et par contre, si on se dépêche, on sera arrivé avant eux par l'escalier !» Elle se mit à courir, maîtrisant parfaitement le dérapage en sortie de pièce sur les pavés glissants. Zizo, moins habile, écrasa son épaule contre la rambarde de l'escalier de marbre. Il ne ralentit pas pour autant. Ils réapparurent sous la pyramide, grimpèrent par l'escalier d'en face, se retrouvèrent dans la grande salle au plafond de verre, entre les sculptures géantes de soldats dénudés. Sabi ralentit un instant pour déposer un bisou sur la joue de la statue d'un homme casqué aux muscles saillants, bouclier et épée posée à ses pieds.
« Je les vénère grave, mes héros grecs. Ils sont trop stylés, tu trouves pas ?»«
Surtout Achille. Lui, c'est mon chouchou. »
Valère, le malade d'histoire du pavillon des savants, prétend qu'il préférait les garçons. Tu parles, c'est un mytho. J'ai accroché un tableau de lui au-dessus de mon lit. D'Achille, pas de Valère. Je l'ai piqué dans la galerie des antiquités. Allez, viens.
Sabi accorda un dernier regard attendri à la statue de son héros, puis ils se remirent à courir. Ils traversèrent une salle où étaient exposés des objets de toutes sortes, en fer, en or, en verre, dont Zizo ignorait pour la plupart à quoi ils pouvaient servir. Était-ce des armes, des bijoux, des outils ? Zizo s'arrêta pour les étudier. Sabi le tira par la main tout en soupirant.
Là, le petit truc rond avec les chiffres romains, c'est une montre. Ça servait à connaître l'heure. Le bidule bizarre en argent, c'est un chandelier. On enfonçait des bougies dedans. Et le truc qui ressemble à un arc avec un manche en bois, ça s'appelait une arbalète. Ça te zigouillait un type à 50 mètres. Paf, une flèche en pleine tête.
Rassure-toi, mon bébé rat. Mama Luna nous interdit de nous en servir, même contre les petits sauvages comme toi.
Allez, fonce. Tu ne vas pas t'arrêter à chaque vitrine.
Ils coururent à nouveau dans le couloir. Le pavillon des soldats se résumait à une succession interminable de pièces. De temps en temps, il croisait un garçon ou une fille qui presque toujours tenait à la main un long bâton. Soudain, ils entrèrent dans une nouvelle salle et le décor changea.
« C'est encore plus dingue que la galerie », pensa Zizo.
Il resta bouche bée devant les murs recouverts d'une espèce de laine rase et rose, de la même couleur que les tissus qui pendaient devant les fenêtres ou que ceux qui recouvraient le sol en longs rubans. Les meubles de bois étincelaient, comme recouvert d'une pluie d'étoiles. Mais surtout, Zizo se frottait les yeux pour parvenir à croire à ce qu'il voyait au-dessus de sa tête. Une fabuleuse cascade de cristal était suspendue au plafond, des centaines de bougies enfermées dans les larmes de verre, toutes allumées ensemble. Zizo n'avait jamais rien vu d'aussi sublime. Il resta bloqué, la tête en l'air, subjugué.
« Faut t'en remettre, c'est qu'un lustre !» fit Sabi en le secouant. Voilà, ça ressemble à ça, les appartements de la reine. Tu vois, elle ne s'embête pas, notre Alix.
Viens, on va les voir arriver.
Ils s'assirent dans un grand fauteuil à plusieurs places, rose comme les murs, mais dur sous les fesses, presque autant que les accoudoirs de bois finement sculptés. Quelques secondes plus tard, deux garçons et une fille passèrent devant eux. Le premier garçon paraissait assez grand, peut-être parce qu'il se tenait très droit, les cheveux coupés ras sur un visage carré d'où ressortaient des yeux bleus, très clairs. L'autre garçon était plus petit, les cheveux noirs, raides et mal coiffés. Il semblait avancer sans faire attention où il allait, le regard perdu, tout autant que ses mains glissées dans les poches d'un grand vêtement mou sans forme. Enfin, la fille marchait à leur côté sans rien dire. Elle était plus grande qu'eux,
mais c'était à cause du très haut chignon qui trônait sur sa tête, retenu par deux pinceaux plantés dans ses cheveux. Derrière ses lunettes rondes dorées, ses paupières étaient peintes en violet, de la même couleur que ses ongles et sa robe, portée tellement serrée qu'elle était obligée de faire des tout petits pas pour avancer.
« Les membres du conseil !»
chuchota Sabi à l'oreille de Zizo.
« C'est qui ?» demanda-t-il.
« Ceux qui décident de tout. Dans ta tribu préhistorique, je suppose que vous n'avez qu'un chef et que tout le monde lui obéit.
Nous, c'est carrément plus compliqué.
Le conseil est constitué de 5 personnes. Tu te doutes que tout a été réglé par Marie-Lune avant nous 6 ans. On n'a fait qu'obéir au commandement qu'elle nous a laissé. »
Les deux garçons et la fille venaient de disparaître derrière une porte.
« 5 membres, donc, » reprit Sabi. « Tous ont une voix. Une seule voix. Il y a la reine, d'abord, élue par tous les enfants, pour 1 an. Elle choisit son conseiller. Je ne te fais pas de dessin, même si je suis un singe, je peins comme un cochon. Mais le conseiller, c'est Ogénor. Pas une reine n'oserait choisir quelqu'un d'autre. Le conseiller de la reine, c'est une sorte de premier ministre, si tu veux, ou de grand vizir. »
Elle éclata de rire devant les yeux ahuris de Zizo. Elle avait l'impression d'expliquer à une poule à quoi sert un pinceau.
« Bref, la reine, ou le roi d'ailleurs, choisit le plus malin et le plus intelligent des enfants pour qu'il puisse la conseiller, et qu'elle ait l'air moins bête. Dis donc, tu m'as l'air encore plus nul en histoire que moi. »
« Et les 3 autres membres ?» demanda Zizo sans relever.
« Ce sont les délégués de chaque pavillon. Tu viens de les voir passer. Le délégué du pavillon des soldats, c'est Jean d'Arc, le garçon raide comme un bâton de lollipop. Je te rassure, il y en a bien d'autres plus beaux que lui dans son pavillon. Le délégué du pavillon des savants, le petit brun en survêtement avec les yeux bridés, c'est Liu, la grosse tête parmi les grosses têtes. Et la grande tige rabougrie, c'est la déléguée du pavillon des singes, ma grande copine, Isalis.
Comment sont-ils choisis?
Le plus simplement du monde, par les notes. Celui qui obtient les meilleures notes dans chaque pavillon est désigné délégué pendant 1 an.
Attention, les voilà.
Sabi se leva. Zizo en fit autant. Alix surgissait au bout du couloir, poussant le fauteuil de Génor. Sabi exécuta une nouvelle révérence comique qui amusa Alix, mais n'arracha pas un sourire à son conseiller. Ils s'enfermèrent à leur tour dans la grande pièce, au bout des appartements. Zizo eut juste le temps d'apercevoir des murs dorés et une très longue table de bois entourée d'une 50aine de sièges, beaucoup trop pour 5 conseillers.
« Et voilà, » dit Sabi. « C'est parti pour des heures de parlotte top secrète. »
« Que va-t-on faire de lui ?» interrogea Ogénor. « Que va-t-on faire de ce garçon de la tour qui s'est introduit dans le château maintenant qu'il est ici ?»
Les 5 membres du conseil s'observaient. Bien que reine, Alix avait choisi de ne rien dire pour l'instant. Liu, le délégué du pavillon des savants, fut le premier à donner son avis.
C'est une chance inouïe. C'est le premier contact avec un enfant de l'autre tribu depuis toutes ces années.
Il continua en se lançant dans une longue tirade sur l'intérêt d'étudier les tribus primitives, sur l'humanité qui avait progressé en découvrant des terres inconnues et les indigènes qui les habitaient, en Afrique, en Amérique, une humanité qui, avant de les explorer, ne connaissait ni les tomates, ni le café, ni le chocolat. Isalis, la déléguée des singes, lui coupa la parole.
« Eh bien, nous, on les connaît, les tomates et le chocolat. »
Elle jouait en permanence avec les pinceaux plantés dans ses cheveux.
« Ces pouilleux de la tour Eiffel vivent sous nos portes, pas sur un autre continent. Et ça m'étonnerait qu'ils aient inventé comment faire pousser des abricots sans noyau. Le petit sauvage, on le fout dehors et zou. Les crétins avec les crétins. Et nous, chez nous. Chacun s'arrive et la Seine continuera de couler. »
Alix détestait la façon dont s'exprimait Isalis. Liu aussi, visiblement.
« Ce serait stupide de le laisser repartir, » répliqua le délégué des savants. « On ne peut pas laisser passer l'occasion de comprendre comment eux aussi, les enfants de l'autre tribu, ont survécu. Comment ils se sont organisés. Il faut étudier ce petit indigène, le questionner, il faut le... »
Alix n'aimait pas davantage les arguments de Liu. « Je m'oppose moi aussi à son départ, » déclara Jean d'Arc. Le délégué des soldats parlait de façon très posée, presque lente,
Sa voix calme et douce tranchait avec son visage carré et froid.
« Ce jeune garçon de la tour, » continua le soldat, « en sait déjà beaucoup trop sur nous. Ce serait dangereux, désormais, de le laisser s'en aller. Vous n'auriez pas dû lui confier tant de secrets, Majesté. »
Il n'y avait rien d'ironique dans le mot « Majesté » prononcé par Jeanne d'Arc. Alix savait que le délégué des soldats respectait plus que tout l'ordre, la sécurité, les commandements, et donc l'autorité de sa reine. D'habitude, ses majestés ou votre altesse donnaient à Alix envie de rire, mais cette fois, elle ne put s'empêcher de crier.
« Il m'a sauvé la vie !»« Formidable !» commenta Isalis. « On lui dit merci, on lui file un carton de Lollipops, il en distribuera à tous ses copains dans sa tente géante et tout le monde sera content. » « Je proteste au nom de tous les savants !» répliqua Liu en tapant du poing. « Isalis, comment peux-tu parler comme ça? On a tous le même sang, les mêmes chromosomes, le même ADN !»
Liu adorait utiliser des mots savants.
« Ce sont des petits humains comme nous !»«
Des petits humains dangereux !» ajouta Jeanne d'Arc.
« Dangereux ?» plaisanta Isalis. « C'est sauvage ?» Tu crois vraiment qu'il voudrait s'attaquer au château pour s'emparer de notre réserve de Lollipops? Dans ce cas, on lui donne deux cartons et bon débarras.
Moi aussi, déclara soudain Augénor. Je pense qu'il faut rendre la liberté à ce garçon.
Il y eut un long silence. L'avis de son conseiller surprenait Alix, mais avant de chercher à comprendre, elle compta dans sa tête. Deux voix s'étaient exprimées pour garder Zizo prisonnier, celle de Liu pour les savants, et de Jeanne d'Arc pour les soldats. Deux membres du conseil préféraient le libérer, Augénor et Isalis. Deux deux, égalité. La voix de la reine serait donc décisive, et Alix se sentait terriblement partagée.
C'est si beau, souffla Zizo.
Il se promenait avec Sabi, visitant au hasard les appartements de la reine. La pièce dans laquelle ils entraient ressemblait à une chambre. Zizo observait l'étrange lit face à lui. Son matelas, épais et haut, était entouré de quatre poteaux de bois autour desquels étaient accrochées des tentures bleues et or, formant des murs et un plafond de tissu.
« Trop beau !» précisa Sabi. « Alix déteste vivre ici. »
Elle déteste ce luxe. Elle s'y sent aussi à l'aise qu'une hirondelle enfermée dans une cage dorée.
C'est bête. Moi, je crois que j'aimerais bien avoir une chambre de princesse pour moi toute seule, des draps de soie et des gros édredons. Mais je ne suis pas reine. D'ailleurs, je crois qu'Alix déteste aussi être reine. Si je ne l'avais pas suppliée, jamais elle n'aurait même accepté de porter cette couronne de roses. J'en ai arraché une à une les épines, figure-toi, pour lui montrer à quel point j'étais fière de ma copine.
Pourquoi est-elle devenue reine, alors?
Pas le choix. Elle a été élue.
Et pourquoi a-t-elle été élue si elle ne le voulait pas?
Sabi soupira.
Tu me gaves, le petit sauvage. Y a pas écrit gardien du musée sur mon front. Alors, je t'explique en deux mots et après tu me fiches la paix.
Il y a 6 mois, Alix était une petite fille ordinaire du château. Une parmi la centaine d'autres. Personne ne la remarquait. Et il y a 6 mois, elle a gagné le tournoi de l'étoile. Encore un truc inventé par Marie-Lune. Tu découvriras ça bien assez vite. Ce tournoi est censé remplacer le sport que regardaient nos parents avant le nuage. Un vrai délire, des jeux débiles où on tapait dans une baballe avec les pieds, ou une espèce de poêle à frire, ce genre de truc. Tu verrais les images, t'y croirais pas. Enfin bref, chaque année au château, on organise ce fameux tournoi et Alix, par le plus grand des coups de bol, l'a gagné. T'imagines la suite? Hurrah des enfants, popularité d'enfer, vote! Et toc, la voilà qui se retrouve avec une couronne sur la tête. Ma petite Alix, ma grande copine. Qui aurait pu croire ça? Sabi grimpa d'un bond sur le grand lit à baldaquin.
Et maintenant elle fait la tête parce qu'elle dort là, dans un lit de conte de fées, alors qu'on s'entasse tous assis sur des lits superposés dans nos dortoirs des pavillons. Oh. Ah, ma petite chérie gâtée.
De l'autre côté de la porte, dans la salle du conseil, les 5 enfants chargés de prendre les décisions du château continuaient de discuter, sans avancer. Liu, pour les savants, évoquait toute l'histoire du monde,
des dinosaures aux grandes découvertes, pour défendre la nécessité d'interroger et d'étudier cet étranger. Isalis, pour les artistes singes, citait en permanence Marie-Lune et leur mission, protéger le patrimoine de l'humanité qu'on leur avait confié dans ce musée. Toutes les œuvres d'art, les préserver des pillards et des ignares.
Ogénor parlait moins, mais pensait qu'il fallait libérer le jeune Zizomis avant qu'il ne soit trop tard.
« Il y a autre chose, » dit soudain Jean d'Arc d'une voix grave comme s'il en avait assez des discussions sans fin. Tout le monde se tut pour écouter le délégué du pavillon des soldats.
« Je pense que le jeune Zizomis n'est pas venu là par hasard, » expliqua Jean d'Arc. « La fenêtre sans barreaux du château a été brisée volontairement, et ce n'est pas par l'un d'entre nous. Les enfants de la tour grandissent, ils gagnent en force, en assurance. Ils s'aventurent de plus en plus loin, de plus en plus près de notre jardin, sous nos fenêtres. Ce Zizomis n'est que le premier. Ils nous craignent de moins en moins. Et surtout... »
Il marqua une pause. Isalis s'essuya ses lunettes dorées. Des gouttes violettes avaient giclé de ses paupières. Liu, les deux mains plongées dans ses cheveux décoiffés, semblait suivre le raisonnement du délégué des soldats avec beaucoup d'attention.
« Et surtout, » continua Jean d'Arc, « nos éclaireurs ont observé des mouvements étranges dans la forêt, dans la Seine, dans le ciel. »«
C'est-à-dire ?» s'inquiéta Ogénor.
« Rien à voir avec les enfants de la tour, » clarifia Jean d'Arc. « Je parle des animaux. Certains semblent se comporter de façon bizarre. Certains, même, semblent mourir prématurément. »
« Et alors ?» ricana Isalis. « Tu comptais faire un barbecue pour le prochain birthday ?»
Ogénor leva la main pour lui signifier de se taire.
« Si le gibier vient à manquer, » continua Jean d'Arc, « les enfants de la tour ne regarderont plus vers l'ouest, vers le bois de Boulogne. Ils regarderont vers l'est, vers nous. La faim finit toujours par enhardir les loups. »
Alix se sentait perdue. Les quatre conseillers étaient tous bien plus intelligents qu'elle. Ils raisonnaient vite, anticipaient les conséquences lointaines de leurs décisions. Elle en était incapable. Le poids de cette responsabilité était bien trop grand pour elle. Elle n'arrivait pas à penser au-delà de son intuition, de son instinct, de ses sentiments. Et ses sentiments ne lui dictaient qu'une chose, stupide. Elle n'avait pas envie que Zizo s'en aille. Elle avait envie de continuer de passer du temps avec lui. Dans la chambre voisine de la salle du conseil, Sabi sautait à pieds joints sur le lit à baldaquin en riant. Elle se fichait que les conseillers puissent l'entendre à travers le mur. Elle balança un coussin dans la figure de Zizo, qui observait, étonné, une horloge transparente, tout mécanisme apparent. Le garçon se retourna. Au lieu de répliquer, il détailla avec sérieux les tableaux accrochés au mur, puis une petite statue de soldat casqué posée à l'entrée de la chambre.
« Moi, je ne sais pas, » s'interrogea-t-il en regardant Sabi, « entre les trois pavillons, lequel j'aurais choisi ?»« Parce que tu crois qu'on choisit ?»
Elle tenta de lui lancer un second coussin, mais Zizo esquiva.
« On a passé les tests à 6 ans pile, tu te rends compte ? » Certains racontent qu'à l'époque, Marie-Lune était encore vivante. Ensuite, on nous a donné les résultats de ces foutus tests et on a été affectés à un pavillon en fonction de nos aptitudes physiques, manuelles ou intellectuelles, qu'on pourrait ainsi approfondir. On était déjà copine avec Alix à cet âge-là. Alix était un garçon manqué, rapide et intrépide. Les tests ont été sans surprise. Direction, les soldats. Sauf que depuis ces 6 ans, ma copine a changé. Elle s'est aperçue qu'elle aimait de moins en moins sentir la sueur et passer son temps à faire du judo et des combats de sumo. Et qu'au contraire, les peintures et l'art en général la fascinaient.
Trop tard, ma chérie, ton destin est déjà tracé. Tu seras un petit soldat. »
Sabi demeura un instant pensive, puis se baissa pour ramasser un nouveau coussin. « Et toi ?» demanda Zizo. « Tes tests, ça s'est passé comment ?» Sabi faillit en perdre l'équilibre. Elle s'accrocha à l'une des barres du baldaquin.
« J'ai battu tous les records, mon grand. 0 pointé. Triple 0 pointé. La plus nulle de tout le château. Comme ils se sont rendus compte que je ne comprenais rien aux sciences et que j'étais un boulet en sport, ils m'ont collé avec les artistes. À l'époque, ça m'allait bien de gribouiller. Mais aujourd'hui, le préchi-précha de Mama Luna commence à me prendre la tête. Recopier. Les singes doivent être les gardiens de la mémoire de l'humanité depuis des millénaires et blablabla. Surtout qu'Isalis nous rabâche la même chose que notre bonne maman. Bien s'appliquer, peindre, ne pas dépasser, étudier les œuvres anciennes et les reproduire, sans rien changer surtout, comme si notre déléguée était aussi morte que Marie-Lune, qu'elle n'était qu'un robot qui récite en boucle un discours enregistré.
Je croyais qu'Isalis était ta grande copine.
Je plaisantais, idiot! C'est ma pire ennemie! Sans oublier que cette teigne me cache des choses sur le seul tableau qui m'intéresse, les Sabines. Mais je les découvrirai. Vous ne connaissez pas votre chance, vous, les petits sauvages. Pas de test pour décider de votre vie. T'as compris, petite tête? Si aujourd'hui je pouvais changer mon destin, je foncerais dans le pavillon des soldats. Pour m'occuper du repos des beaux guerriers, je te rassure, pas pour me battre. Même si je sais très bien viser! Et elle envoya le dernier coussin vers Zizo en pleine tête.
Jean, tu penses que le château pourrait être attaqué? Demanda sérieusement Eugénor. Ses mains se crispaient sur les roues de son fauteuil roulant. Tous les regards des membres du conseil du château se tournèrent vers le délégué des soldats.
Oui, c'est plus qu'une probabilité. Ce n'est qu'une question de mois. Peut-être d'années. Je crois que...
Jeanne d'Arc hésitait à continuer. Alix se rendait compte que le conseil avait dérapé. On ne parlait plus seulement de Zizo, mais d'une menace beaucoup plus importante.
Je crois, continua Jeanne d'Arc, baissant légèrement ses yeux bleus, sans fixer personne autour de la table, qu'il faudrait nous armer.
Un frisson parcourut les membres du conseil.
Entends-tu par là? Demanda Eugénor.
Je crois que le pavillon des savants devrait consacrer sa recherche à la façon de nous donner des moyens de défense plus performants. Je crois qu'on devrait autoriser les soldats à utiliser d'autres armes. D'autres armes que les beaux, je veux dire. Des vrais.
Et transformer les singes en soldats pendant que tu y es, explosa Isalis. Nous mettre à tous un casque sur la tête, ouvrir les portes du château et crier « Chargez !» Les singes ne sont pas de la chair à canon.
Qui te parle de canon ? Répondit avec calme le délégué des soldats.
« Allons !»
ricana Isalis. Elle semblait maintenant plus moqueuse qu'énervée, même si son chignon en restait tout décoiffé.
« Allons ! Les enfants de la tour ne sont que des sauvages ! Que craignons-nous d'eux avec notre technologie ? Rien ! Rien du tout ! N'est-ce pas, Liu ?»
Liu semblait hésiter. Eugénor allait parler quand Alix le coupa. Son statut de reine le lui permettait. Elle avait pris sa décision. Et Jeanne d'Arc l'y avait aidé.
Nous connaissons tous les lois de Marie-Lune. Vous connaissez tous le premier commandement. Aucune arme dans le château. Jamais. Chacun possède son beau et chacun doit s'en contenter. Nous ne devons ni fabriquer, ni inventer aucune autre arme. Ai-je tort?
Mais Majesté, tenta d'objecter Jeanne d'Arc.
Alix a raison, trancha Eugénor. C'est le premier commandement.
Cependant, poursuivit Alix, j'ai bien entendu les craintes de Jean et de ses soldats, et je ne prends pas à la légère ces menaces.
Relâchez, Zizomis, serait trop dangereux après ce qu'il a appris.
Il restera parmi nous. Elle marqua une pause. Et il sera traité comme un invité.